Merci, bonjour à tous. Je souhaiterais en effet tout d'abord remercier Bernard Meunier de me donner l'opportunité de présenter ici ses travaux et j'en suis très honorée. Cet exposé va donc porter sur les mécanismes phénotypiques et génotypiques impliqués dans la résistance de Plasmodium aux artémisinines ou comment Plasmodium falciparum, l'agent principal du paludisme, est capable de s'endormir pour mieux résister. Comme Bernard Meunier vous l'a indiqué, le paludisme à Plasmodium falciparum est toujours un problème majeur de santé publique avec près de 800 000 morts chaque année. Tout ceci peut s'expliquer principalement par la capacité de ce parasite à développer très rapidement des résistances à la plupart des antipaludiques disponibles. Pour lutter contre ce phénomène, l'OMS a donc développé une combinaison thérapeutique appelée ACT, qui associe un dérivé de l'artémisinine à une autre molécule partenaire, et ce, pour le traitement de tout paludisme à Plasmodium falciparum. À l'heure actuelle, il existe 5 ACT. Le premier, qui est le plus utilisé, associe l'artéméter avec la lumefantrine. Les 3 autres ACT qui suivent vont associer l'artésunate avec soit la modiaquine, soit la méfloquine, soit la sulfadoxine pyrimétamine. Et enfin, le 5e ACT associe la dihydroartémisinine, un autre dérivé de l'artémisinine, avec la piperaquine. L'intérêt de ces ACT sont tout d'abord leur action grâce aux artémisinines contre toutes les souches de Plasmodium falciparum, y compris les souches résistantes aux autres antipaludiques. L'intérêt également de ces associations va être leur action très rapide grâce tout d'abord à l'action des artémisinines qui est capable de réduire très rapidement la charge parasitaire principale, puis la molécule partenaire va éliminer les parasites résiduels. En 2001, l'OMS a donc demandé à tous les pays en zone d'endémie palustre de changer leur politique de santé publique et ainsi d'appliquer un traitement par ACT. Le nombre de doses utilisées a rapidement augmenté et, ne serait-ce que pour l'année 2012, 331 millions de traitements par ACT ont été délivrés dans les pays endémiques de paludisme. Le rapport 2014 du Global Fund indique, à présent, le paludisme peut être évité et peut être guéri. Ceci grâce à 3 raisons principales. Tout d'abord, l'utilisation des tests diagnostiques. Deuxièmement, la lutte antivectorielle qui permet donc de cibler le moustique vecteur et donc ici empêcher la transmission du parasite d'un individu à l'autre. Et troisième facteur qui a permis cette diminution de la mortalité par l'utilisation des ACT. Et ainsi, la mortalité due au paludisme a diminué de 25% entre 2000 et 2014. L'épidémiologie du paludisme donc de ces dernières années a particulièrement évolué avec une diminution de l'incidence du paludisme de 25% au niveau mondial et de plus de 30% en Afrique et une réduction de la mortalité globale de 42% au niveau mondial et de près de 50% en Afrique. Pourtant, 99 pays restent encore endémiques du paludisme, dont 67% que l'on voit ici en rouge sont en voie de contrôle du paludisme et 32 pays en bleu sont en voie d'élimination du paludisme, les zones colorées en vert correspondant aux zones sans paludisme. Pourtant, face à ce tableau, une première ombre, en décembre 2008, l'équipe de Nodel publie un article rapportant une diminution de sensibilité aux artémisinines. Ce travail avait été fait sur 60 patients qui avaient été traités par voie orale pendant 7 jours. Et le temps de clairance moyen, c'est-à-dire la durée nécessaire pour qu'un patient puisse éliminer ses parasites après un traitement, donc ce temps de clairance parasitaire appelé également PCT, est en moyenne de 52 heures. Or, pour 2 patients, on voit apparaître un PCT prolongé, un de 133 heures et le second de 95 heures. Pourtant, la concentration plasmatique de ces 2 patients était tout à fait normale et ce, dès la première dose. Ce n'était donc pas un problème de pharmacocinétique. La conclusion de l'équipe de Nodel était donc que, à cette période-là, la résistance à l'artémisine ne semblait pas être un phénomène épidémiologique répandu. Cependant, ces temps de clairance parasitaire prolongés de ces deux cas étaient source de réflexion et éventuellement de problèmes. 6 mois plus tard, juillet 2009, 2 articles majeurs sont publiés dans le même volume du New England Journal of Medicine, un article toujours par l'équipe de Aaron Nodel et le deuxième article publié par l'équipe de Don Dorp et de Nick White. Ce second article avait pour but de comparer la réponse clinique de patients traités soit par artésunate en monothérapie, soit par ACT qui associait artésunate plus méfloquine. Alors, il y avait une comparaison de 2 groupes de patients, des patients traités en Thaïlande et des patients traités au Cambodge. On voit très nettement que tous les patients, que ce soit en monothérapie ou en bithérapie, issus de la zone de Thaïlande, ont une temps de clairance parasitaire de l'ordre donc de 48 heures. En revanche, tous les patients traités au niveau du Cambodge ont un temps de clairance parasitaire de l'ordre de 84 heures. Pourtant, ces différences parasitologiques ne peuvent pas être expliquées par des différences au niveau de la pharmacocinétique. Les réponses des patients, quelle que soit la zone d'endémie, étaient tout à fait identiques. Par ailleurs, les tests de chimiosensibilité in vitro étaient tout à fait identiques. Tous les parasites issus de ces patients semblaient sensibles aux tests de chimiosensibilité classique. Par ailleurs, les marqueurs moléculaires connus pour être impliqués dans les résistances aux autres antipaludiques n'étaient pas présents chez ces parasites. En revanche, le temps de clairance parasitaire retardé semblait être corrélé avec la perte de sensibilité des parasites au stade jeune, donc le parasite stade Ring, comparativement aux formes plus matures du parasite, trophozoïte et schizonte, qui semblaient toujours sensibles aux parasites. La conclusion semblait être donc que la résistance était caractérisée par un temps de clairance ralenti in vivo, sans pour autant correspondre avec une réduction de la sensibilité aux tests classiques conventionnels in vitro. Une fois de plus, l'Asie était donc l'épicentre des résistances aux antipaludiques, comme cela avait déjà été le cas pour la chloroquine en 1958, pour la sulfadoxine pyrimétamine en 1968, pour la méfloquine en 1982 et donc pour l'artémisinine en 2008. Plusieurs études ont essayé de comprendre comment cette zone était systématiquement l'épicentre des résistances. Il semblerait que ce soit une zone où l'automédication avec un cocktail de médicaments soit usage courant et donc soumettant les parasites à des médicaments peu appropriés dans le traitement du paludisme. Par ailleurs, il y a énormément de traitements utilisés et donc soumettant les parasites à une pression médicamenteuse forte. Par ailleurs, les artémisinines ont tout d'abord été utilisées en monothérapie, soumettant le parasite à une seule molécule et donc favorisant ainsi l'émergence des résistances. À l'heure actuelle, depuis 2006-2007, l'OMS a demandé que tous les traitements à base d'artémisinine soient associés à une autre molécule partenaire pour donc utiliser uniquement des ACT. Le rapport 2013 de l'OMS indiquait qu'à l'heure actuelle, plus que 9 pays avaient encore dans leur politique de santé publique l'utilisation de monothérapie qui n'est plus du tout préconisée, mais au contraire devrait être transformée en ACT. Par ailleurs, au début des ACT, l'artésunate et la méfloquine étaient donc l'association médicamenteuse la plus utilisée. Or, la méfloquine est connue pour engendrer de nombreux effets secondaires. La plupart des patients s'affranchissaient ainsi des effets secondaires en ne prenant que l'artésunate. Et donc, cette ACT se transformait très rapidement en monothérapie. Pour contrer ce phénomène, à l'heure actuelle, les ACT sont vendus en un seul comprimé qui associe les 2 molécules. Et à l'heure actuelle, en 2014, plus de 99% des ACT sont donc un seul et même comprimé associant les 2 molécules parentales. Par ailleurs, il y a énormément de médicaments de contrefaçon et donc de mauvaise qualité, ce qui va soumettre les parasites souvent à des traces de composés et donc à des doses subthérapeutiques qui sont un facteur favorisant pour l'émergence de résistance. Il y a également de nombreuses zones forestières où le contrôle du vecteur est difficile. Et enfin, il y a énormément de mouvements de population à cette frontière Thaïlande-Cambodge, principalement qui est constituée par des mineurs de pierres précieuses et des agriculteurs. Mais la crise économique a augmenté ce déplacement des populations, dont le suivi médical est particulièrement difficile. Ce déplacement des populations, bien sûr, favorise la diffusion des parasites. Il y a énormément de patients qui viennent de zones où il n'y avait pas de paludisme et qui arrivent dans des zones avec paludisme. Ils n'avaient donc aucune immunité face aux parasites. Ils vont donc avoir un recours fréquent au traitement. Par ailleurs, la méconnaissance qu'ils ont du paludisme et de ses symptômes va souvent être associée à une mauvaise prise de médicaments. Et donc, tous ces facteurs vont engendrer l'émergence de résistance. Il semblerait donc que la frontière Thaïlande-Cambodge soit le foyer d'émergence de génotypes résistants dominants de Plasmodium falciparum en raison de la structure des populations parasitaires, vectorielles et humaines. Cette résistance aux artémisinines a donc été décrite en 2008 à l'ouest du Cambodge, dans la zone de Pailin. Depuis, elle est confirmée régulièrement. Elle est associée à l'augmentation du temps de clairance parasitaire, qui doit être supérieur à 3 jours, ou à une demi-vie d'élimination du parasite supérieure à 5 heures. Par ailleurs, certains isolats résistants montrent une recrudescence parasitaire dans les 28 ou 42 jours suivant le traitement. Enfin, cette résistance aux artémisinines est associée donc avec les stades de ring de Plasmodium falciparum qui semblent être impliqués dans l'augmentation du temps de clairance parasitaire. Là, il y a un problème. Bon. Donc, la question est, est-ce que ces résistances sont une première étape avant une résistance généralisée? La réponse est oui, puisque malheureusement, cette diffusion de la résistance ne s'est pas limitée à l'ouest du Cambodge, mais à l'heure actuelle, tout le Cambodge est touché par cette résistance. Tous les pays limitrophes également au Cambodge, on trouve une résistance au niveau de la Thaïlande, du Myanmar, du Vietnam et du Laos. Et on peut craindre, bien entendu, une diffusion de ces parasites aux autres continents et principalement à l'Afrique, comme ce fut le cas pour la chloroquine ou d'autres antipaludiques. Pourtant, à l'heure actuelle, les ACT restent le meilleur traitement antipaludique contre Plasmodium falciparum, et principalement tant que la molécule partenaire va être efficace. En 2014, des premiers signes de résistance aux molécules partenaires sont rapportés à l'ouest du Cambodge. Donc, quel était l'état des lieux en 2008-2009 de cette résistance aux artémisinines? Il n'y avait pas de test phénotypique disponible in vitro, puisque cette résistance n'était pas détectable par les tests classiques de chimiosensibilité in vitro. Il n'y avait pas de marqueur moléculaire prédictif, puisque cette résistance aux artémisinines n'était associée à aucun marqueur moléculaire connu impliqué dans d'autres résistances. Enfin, il n'y avait pas de solution thérapeutique, puisqu'il n'existait aucune molécule de remplacement aux ACT. En bref, la résistance aux artémisinines a émergé à un moment où aucune méthodologie in vitro, ni aucun marqueur prédictif moléculaire ou biochimique n'était disponible pour la détecter ou l'étudier. Un travail publié cette année par Stéphane Picot a recensé les clones de Plasmodium falciparum les plus utilisés in vitro. On voit que sur ces clones considérés comme les gold standards pour toutes les études in vitro, tous ces clones ont été collectés sur le terrain et clonés dans les années 80, faisant suite à la publication en 1976 par Trager et Jensen qui rapportait les premières méthodologies pour cultiver Plasmodium falciparum in vitro. Depuis, ces clones circulent de laboratoire en laboratoire et ont été sélectionnés beaucoup plus pour leur capacité à se développer rapidement en culture que pour leurs propriétés pharmacologiques. En d'autres mots, comment des clones standards pourraient être utiles pour expliquer la résistance à l'artémisinine alors que cette molécule a été mise sur le terrain dans les années 2000 et que ces clones de référence avaient été isolés du terrain plus de 20 ans auparavant. Il était donc nécessaire de sélectionner une souche de Plasmodium falciparum qui soit à la fois résistante à l'artémisinine, qui soit cultivable in vitro, et que l'on puisse comparer avec une souche témoin sensible afin de déterminer les profils phénotypiques et génotypiques. Et c'est dès 2005 que nous avons initié cette sélection de souches et ainsi anticipé les résistances qui allaient apparaître quelques années plus tard sur le terrain. Alors, pour sélectionner cette souche résistante à l'artémisinine, nous sommes partis d'une souche justement gold standard, une souche de référence de laboratoire ou appelée aussi souche de cirque, et que nous avions sélectionnée non pas pour ses capacités de résistance, mais bien au contraire, nous avions pris la souche F30 de Tanzania parce qu'elle était sensible à tous les antipaludiques. Nous avons ensuite soumis cette souche à des pressions médicamenteuses séquentielles et croissantes pendant plus de 5 ans, jusqu'à obtenir la souche F32 Hart, qui était résistante à l'artémisinine et capable de survivre à plus de 10 000 fois la dose qui tue la souche parentale. Parallèlement, nous avions soumis la souche F32 Tanzania à une culture au long cours sans pression médicamenteuse pour obtenir la souche F32 témoin, qui était donc sensible, qui correspondait à la souche parentale, mais qui avait subi une culture continue au long cours. Ainsi, les résultats obtenus avec la souche F32 Hart ne pouvaient être dus qu'à son exposition à l'artémisinine, alors que s'il y a eu des modifications sur la souche F32 témoin, il pouvait être expliqué par la culture au long cours. Pourtant, d'après les critères de l'OMS, F32 Hart était sensible. En effet, cette méthode, qui avait été publiée en 1979 par Desjardins, étudie l'incorporation d'hypoxanthine tricier et donc évalue la croissance et le développement des parasites. Nous voyons que les doses et les concentrations obtenues, quelle que soit la souche F32 Tanzania parentale, la souche F32 TEM, donc témoin sensible, et la souche F32 Hart, toutes ces souches montrent la même CI50. Elles sont donc sensibles d'un point de vue des critères de l'OMS. Pourtant, d'un point de vue pharmacologique, cette souche F32 Hart est bien résistante, puisque lorsque l'on soumet la souche F32 Hart et la souche F32 TEM pendant 48 heures à 35 micromolaires d'artémisinine, on voit ici en noir que la souche F32 TEM n'est pas capable de se développer, que tous les parasites ont été tués par cette dose d'artémisinine, alors que la souche F32 Hart, ici en rouge, est capable de se développer et de se multiplier tout à fait normalement. La méthode OMS de référence n'était donc pas adaptée pour détecter ce phénotype. Les parasites résistants à l'artémisinine démontraient donc un phénotype particulier, non détectable par le test standard. Il était donc nécessaire de développer un nouveau test de chimiosensibilité qui soit adapté à l'évaluation des résistances aux artémisinines. Nous avons donc tout d'abord essayé de comprendre pourquoi le test OMS de référence n'était pas capable de détecter cette résistance. Ce test évalue la multiplication et le développement d'un parasite en présence d'une molécule, et c'est la synthèse d'ADN qui est ensuite évaluée. Lorsqu'un parasite est sensible et qu'il est mis au contact d'une molécule, le parasite va être tué, la synthèse d'ADN va donc être inhibée. Quand un parasite est résistant à une molécule, il va donc continuer à se développer en présence de cette molécule, la synthèse d'ADN ne va donc pas être inhibée. Dans le cas des parasites résistants à l'artémisinine, il semblerait que la synthèse d'ADN soit inhibée, pourtant les parasites ne sont pas tués. C'est donc que la résistance à l'artémisinine entraîne un métabolisme particulier que seule la quiescence pourrait expliquer. En effet, la synthèse d'ADN est arrêtée comme pour les parasites sensibles, mais lorsque les parasites ne sont plus au contact de la molécule, ils sont capables de se redévelopper. La résistance par quiescence ne pouvait donc pas être évaluée par le test de référence de l'OMS. Nous avons donc essayé de mettre en évidence ce phénomène de quiescence. Pour cela, nous avons soumis les parasites de la souche F32 Hart à un marqueur mitochondrial de la rhodamine 123 qui marquait donc les parasites vivants. Nous voyons ici la mitochondrie caractéristique des stades ring de Plasmodium falciparum. Nous avons soumis ces parasites à un traitement d'artémisinine pendant 24, 48 ou 72 heures. Quelle que soit la durée du traitement, seules des formes ring persistantes étaient visibles. C'est donc que les parasites étaient restés quiescents pendant le traitement. En présence d'artémisinine, le cycle cellulaire était donc arrêté au stade ring. Nous avons ensuite éliminé l'artémisinine des cultures parasitaires. Nous avons attendu 24 heures Et nous avons pu déterminer les différentes mitochondries caractéristiques des parasites au stade trophozoïte, schizonte jeune et schizonte mature. Ainsi, nous pouvions confirmer qu'après l'élimination de l'artémisinine, il y avait bien reprise du cycle cellulaire par les parasites quiescents. La résistance à l'artémisinine apparaissait donc comme un phénomène de quiescence réversible. Nous avons souhaité confirmer ce phénomène de quiescence par analyse en cytométrie de flux où les parasites étaient colorés au DAPI. Les parasites au stade Ring sont ici visibles en bleu. Après 24 heures ou 48 heures d'artémisinine, on voit toujours les parasites uniquement au stade Ring et quelques premiers éléments ici sont des parasites morts. En revanche, 24 heures après l'élimination de l'artémisinine, on voit l'apparition ici de globules rouges parasités caractéristiques en raison de la fluorescence et donc la coloration au DAPI qui correspondait bien au stade AG et donc au stade trophozoïde schizonte, confirmant bien la restauration du cycle parasitaire après l'élimination de l'artémisinine. Nous avons ensuite souhaité trouver une méthodologie qui était capable d'évaluer la résistance à l'artémisinine, non plus en déterminant la capacité du parasite à se développer, puisque nous avons vu que le parasite, en présence de la molécule, a une croissance arrêtée, mais en revanche, sa capacité de recrudescence. Nous avons ainsi soumis la souche F32-ART et la souche F32-TEM à différentes doses de molécules et durant différentes périodes. Ces parasites sont ensuite lavés, remis en conditions de culture sans molécules. Et ce que nous avons étudié, c'est la capacité de recrudescence des deux souches. Ainsi, après 9 micromolaires d'artémisinine pendant 48 heures, nous voyons que la souche F32-ART est capable de se développer et d'atteindre la parasitémie initiale de 5% dès le cinquième jour. En revanche, il faut attendre plus de 15 jours pour que la souche F32-TEM soit capable de retrouver ses 5% de parasitémie. Nous avons ainsi testé différentes molécules à différentes doses. L'artémisinine, lorsqu'elle est au contact de la souche F32-TEM et de la souche F32-ART, on voit que le nombre de jours pour atteindre la parasitémie initiale est systématiquement plus courte pour la souche F32-ART, en général une dizaine de jours plus rapide que pour la souche F32-TEM. Lorsque l'on augmente les doses d'artémisinine à des doses très élevées, seule la souche F32-ART est capable de se développer, alors que tous les parasites de la souche F32-TEM sont tués. Nous avons ensuite soumis ces deux souches à des doses d'artémisinine pendant une durée beaucoup plus importante de 96 heures, et nous voyons que seuls les parasites de la souche F32-ART sont capables de se les développer, et tous les parasites de la souche F32-TEM sont éliminés. Nous avons donc ainsi pu démontrer que la souche F32-ART résistait bien à l'artémisinine, quelle que soit la durée du traitement. Nous avons ensuite soumis ces deux souches à un autre dérivé de l'artémisinine, l'artésunate, et nous voyons que la souche F32-ART est beaucoup plus résistante à l'artémisinine que la souche F32-TEM. Et c'est un travail qui est actuellement en cours, qui n'est pas encore publié. Nous avons testé l'artéméter, un autre dérivé donc de l'artémisinine, avec ces deux souches, et nous voyons également que la souche F32-ART est résistante à cette molécule, contrairement à la souche F32-TEM. Il y a donc bien une résistance croisée avec l'artémisinine, l'artésunate et l'artéméter, avec cette souche F32-ART qui pourtant n'avait été soumise qu'à de l'artémisinine. Donc il y a une capacité du parasite à développer des résistances croisées à toute la famille des artémisinines. Nous avons ensuite souhaité déterminer si cette résistance à l'artémisinine était stade-dépendant. Pour cela, nous avons soumis la souche F32-ART et la souche F32-TEM que nous avons synchronisées et soumis à des doses d'artémisinine lorsque les parasites étaient au stade jeune, donc âgés entre 0 et 12 heures. Nous voyons que seuls les parasites de la souche F32-ART, ici en rouge, sont capables de se développer, alors que tous les parasites de la souche F32-TEM ont été tués. Nous avons ensuite effectué la même expérience, mais en appliquant la dose d'artémisinine sur des stades matures, donc âgés entre 24 et 36 heures. Et nous voyons qu'après ce traitement, aucune des deux souches, que ce soit la souche F32 Heart ou la souche F32 TEM, ne sont capables de se développer. Nous avons donc pu conclure que seuls les stades de jeûne, les stades de ring de F32 Heart, étaient capables de résister à l'artémisinine. Or, sur le terrain, comme nous l'avions vu, les formes ring de plasmodium falciparum semblaient moins sensibles et c'était elles qui étaient impliquées dans l'augmentation du temps de clairance parasitaire. Avec ce travail, nous avons donc confirmé l'hypothèse clinique et ainsi validé notre modèle F32 Heart de la souche plasmodium falciparum résistante à l'artémisinine. Il était ensuite important de déterminer quelle était la résistance sur le terrain. En bref, est-ce que ce phénomène de quiescence était également impliqué dans la perte de sensibilité aux artémisinines des isolats d'Asie du Sud-Est ? Ce travail a été conduit par l'Institut Pasteur du Cambodge. Et donc, à partir d'études cliniques, les données cliniques et donc les retards de clairance parasitaire étaient rapportés. Et à partir de chaque isolat de patient, ces isolats étaient adaptés en culture continue, in vitro, et des tests de survie parasitaire permettaient de déterminer s'il y avait une relation entre les données cliniques et la viabilité parasitaire. Ce travail a donc soumis deux types d'isolats, des isolats collectés dans la zone pailine, donc dans la zone ouest où il y avait un retard de clairance parasitaire notable, comparé à des isolats collectés dans la zone de Ratanakiri, nord-ouest du Cambodge, où il n'y avait absolument pas de résistance clinique rapportée. Ces deux échantillons d'isolats ont donc été soumis avec le test de référence de l'OMS, le test de recrudescence que je viens de vous présenter, ou un test beaucoup plus rapide qui mimait la pharmacocinétique de l'artémisinine avec une activité très rapide de l'ordre de 6 heures par la DHA qui est le métabolite actif de l'artémisinine. Les parasites étaient donc soumis soit à 6 heures de DHA lorsqu'ils étaient au stade de ring, soit à 6 heures de DHA lorsqu'ils étaient à des stades matures. Au niveau du test de référence de l'OMS, nous voyons que quels que soient les isolats qu'ils soient collectés dans la zone de Pailin ou de Ratanakiri, et quelle que soit la molécule testée, artésunate, dihydroartémisinine, atovacone, doxycycline, méfloquine, chloroquine, piperaquine ou quinine, tous ces isolats montraient des sensibilités tout à fait identiques. Il n'y avait donc pas de corrélation entre la résistance clinique et la chimiosensibilité avec le test de référence de l'OMS. Ces mêmes parasites ont ensuite été soumis au test RSA donc pendant 6 heures de DHA au stade de ring. Et nous voyons que le pourcentage de survie des parasites lorsqu'ils sont issus de Pailin ou de Ratanakiri est tout à fait différente. Et cette survie est de l'ordre de 1% pour les parasites issus de Ratanakiri et qu'elle est de l'ordre de 10% pour les parasites issus de la zone de Pailin. Les parasites de Pailin, donc zone où il y a un temps de clairance parasitaire particulièrement élevé, était donc résistant à la DHA. Ces mêmes parasites ont été ensuite soumis au test pendant 6 heures de DHA, mais appliqués au stade mature, lorsque les parasites étaient âgés entre 24 et 30 heures, et on ne voit absolument plus de différence entre les deux types d'isolats, montrant ainsi que les isolats, lorsque les parasites étaient au stade mature, étaient tous sensibles. Seuls les stades de ring issus des isolats de Pailin étaient donc résistants à la DHA, ce qui validait également notre modèle F32 Heart. Les parasites de Pailin ensuite ont été soumis à 24 heures de DHA. L'on voit très bien ici, lorsque les parasites ne sont pas exposés, une croissance normale, stade ring, au bout de 24 heures, trophozoïte, au bout de 48 heures, schizonte et des premiers rings du second cycle, et au bout de 72 heures, les stades trophozoïtes de ce second cycle. Lorsque les parasites sont exposés à la DHA, on voit au bout de 24 heures qu'ils sont toujours au stade ring. Puis, lorsque la DHA est éliminée, on voit la croissance du parasite qui va se développer et donc qui va être décalé dans le temps des 24 heures de DHA de traitement. Les parasites de Pailin, tout comme les parasites de la souche F32 Heart, résistaient donc aux artémisinines par quiescence. Un autre travail de l'Institut Pasteur du Cambodge a rapporté la corrélation entre sensibilité in vitro par le test donc RSA et temps de clairance parasitaire. Ainsi, on voit tous les patients qui correspondent à des cercles vides, correspondaient à des patients qui avaient présenté des clairances parasitaires lentes. On voit qu'en moyenne, leur valeur de la pourcentage de survie est de l'ordre de 11%. En revanche, tous les isolats issus de patients qui avaient montré des clairances parasitaires rapides, ici avec en bleu, ont un pourcentage de survie parasitaire inférieur à 1%. Il y avait donc bien une corrélation des valeurs in vitro, donc obtenues par le test RSA, et des données cliniques avec le temps de clairance parasitaire retardé. Ce travail indiquait également une corrélation significative entre le temps de clairance ici et la proportion de parasites viables après un test RSA. Le RSA apparaissait donc comme un test pertinent de chimiosensibilité aux artémisinines. Après ces différences significatives de compréhension du phénotype de résistance à l'artémisinine, il était important de comprendre quel était le marqueur moléculaire de résistance à l'artémisinine. Pour cela, deux articles majeurs ont été publiés. Un premier article indiquait le séquençage sur génome entier de plus de 800 échantillons de Plasmodium falciparum issus d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique, afin de déterminer les bases moléculaires et l'origine de la résistance à l'artémisinine. Un autre article avait séquencé des isolats d'origine géographique différente et quatre mutations apparaissaient principales et associées avec le délai de clairance parasitaire, une mutation sur le chromosome 10, deux mutations sur le chromosome 13 et une mutation sur le chromosome 14. Pourtant, même si ces études ont séquencé presque 1200 isolats de Plasmodium falciparum et qu'un profil génétique lié à la clairance lente sous ACT commençait à apparaître, aucun gène causal n'était clairement identifié comme responsable de la résistance à l'artémisinine. Cela pouvait s'expliquer tout simplement en raison de la grande variabilité génétique de Plasmodium falciparum, mais également par le fait que le temps de clairance parasitaire ne peut pas être uniquement lié à la sensibilité intrinsèque des isolats parasitaires aux artémisinines. On peut également expliquer le délai de clairance parasitaire par le stade parasitaire au moment du traitement, mais également par des paramètres de l'hôte, comme la pharmacocinétique ou l'immunité. Ainsi, afin de s'affranchir tout d'abord des paramètres de l'hôte, la comparaison du génome du F32-ART et de F32-TEM était bien entendu évidente, mais également nous pouvions de ce fait nous affranchir des problèmes de variabilité génétique, puisque F32-ART et F32-TEM étaient issus de la même souche parentale, et finalement, c'était deux souches jumelles, une sensible et l'autre résistante à l'artémisinine. Ce travail qui a été conduit par l'Institut Pasteur de Paris, l'Institut Pasteur du Cambodge, le NIH et donc le CNRS à Toulouse, a permis de déterminer qu'il y avait plusieurs mutations qui étaient associées avec la souche F32-ART, comparativement à la souche F32-TEM, qui étaient présentes sur sept gènes. Nous avons ensuite comparé ces sept gènes au séquençage des souches du Cambodge associées avec des retards de clairance parasitaire. Et ainsi, nous avons pu déterminer que le gène qui codait pour la protéine Kelch-13 était systématiquement associé avec les isolats présentant un retard de clairance parasitaire important. Nous avons ensuite essayé de comprendre quel était au cours du temps et au cours des pressions médicamenteuses qui avaient permis d'obtenir la souche F32-ART, à quel moment les différentes mutations étaient apparues. On voit que la souche qui code pour Kelch-13 est arrivée très précocement, vers le 40e cycle de pression médicamenteuse. Nous avons ensuite étudié, pour les différents clones intermédiaires, les valeurs de RSA et donc la capacité de survie des parasites avant et après l'apparition de la mutation K13. Nous voyons que les isolats qui sont les clones qui sont avant la mutation K13 ont un pourcentage de survie de l'ordre de 0,01%. Dès l'apparition de K13, on voit qu'il y a une multiplication par 1000 de la capacité de survie des parasites. Malgré de nouvelles apparitions de mutations, on voit que la capacité de survie des parasites est toujours identique. En revanche, la souche F32TEM, qui n'a donc jamais été soumise à des pressions à l'artémisinine, garde une valeur de RSA tout à fait identique à la souche parentale. Il y avait donc bien une corrélation entre la mutation de K13 et les valeurs de RSA. Les isolats parasitaires collectés donc dans les années 2010-2011 au Cambodge ont été étudiés afin de déterminer quels étaient leurs polymorphismes par rapport à K13. Ainsi, nous voyons que le pourcentage de survie des parasites est tout à fait lié avec ce polymorphisme, puisque tous les isolats qui ont le type sauvage pour K13 ont un pourcentage de survie inférieur à 1, alors qu'il est de l'ordre de 10% systématiquement pour les différents allèles mutés de K13. Par rapport à ces mêmes isolats, nous avons ensuite regardé quelle était la corrélation entre la demi-vie du temps de clairance parasitaire et le polymorphisme de K13. Nous voyons ici que tous les isolats présentant le génotype sauvage pour K13 avaient en moyenne un temps de clairance parasitaire de l'ordre de 3h30, alors qu'il était systématiquement supérieur à 6h, quel que soit l'allèle muté de K13. K13 apparaissait donc comme une signature moléculaire fiable de la résistance aux artémisinines. La distribution géographique des allèles de K13 au Cambodge en 2011-2012 a ensuite été effectuée sur 300 isolats de Plasmodium falciparum dans 10 provinces distinctes. On voit en vert ici les allèles sauvages et les autres couleurs correspondent aux allèles mutés de K13. On voit donc qu'il y a un nombre important d'allèles de K13, que l'allèle C580Y qui est ici en rouge, correspond à 85% de tous les allèles mutants. Il y a une réelle disparité dans la répartition de ces allèles mutants, puisqu'elle est principalement regroupée ici à l'ouest du Cambodge et qu'elle est totalement corrélée avec le temps de clairance parasitaire. La fréquence des allèles de K13 a ensuite été étudiée à la fois au cours du temps, la première colonne correspondant à l'année 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 et 2011-2012 dans différentes provinces au Cambodge. On voit très clairement une diminution de l'allèle sauvage K13 en vert avec une augmentation des mutants, quelle que soit la zone, et même au niveau du nord du Cambodge qui n'était initialement pas touché par la résistance aux artémisinines. Il y avait donc une réelle distribution à la fois dans l'espace et dans le temps du polymorphisme de K13 et qui était corrélée avec la résistance aux artémisinines, la résistance clinique. Alors, on sait peu de choses au niveau de K13 de Plasmodium falciparum. Vraisemblablement, elle ressemble beaucoup à la protéine KIP1 humaine. Et comme KIP1, K13 a une structure en 3D et principalement contient au niveau C-terminal un domaine cache formé de 6 motifs qui correspondent à une hélice en 6 pales. Au niveau de la structure 3D du domaine K13, on voit ici les mutations qui sont représentées par les différentes boules qui correspondent donc aux différents allèles mutants. Donc, les nombreuses mutations que l'on trouve dans K13 pourraient certainement modifier la structure de l'hélice ou les charges de surface de cette protéine et ainsi certainement altérer ses fonctions biologiques. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas comment fonctionne K13 chez Plasmodium falciparum. Cependant, si on extrapole et si on essaye de comprendre comment fonctionne KIP1, on sait que KIP1 est une protéine humaine qui est un régulateur négatif de la réponse cytoprotectrice dépendante de NRF2. En temps normal, KIP1 et NRF2 sont couplés. KIP1 séquestre NRF2. Lorsqu'il y a un stress oxydatif, le binôme KIP1-NRF2, ce complexe, est perturbé. Il va y avoir libération de NRF2, translocation au niveau du noyau, activation de la transcription de gènes de défense et libération de protéines antioxydantes. À l'heure actuelle, on ne sait donc absolument pas si K13 chez Plasmodium falciparum a également une protéine partenaire. À ce jour, aucun orthologue de NR2 n'est identifié dans le génome de Plasmodium. Cependant, on pourrait imaginer que si le même principe existait chez Plasmodium falciparum, lorsque les parasites sont mutés pour K13, ils seraient certainement beaucoup plus aptes à résister à l'action oxydante de l'artémisinine et de ses dérivés, et donc ainsi échapper à ces molécules et à, donc à l'efficacité de ces traitements. À l'heure actuelle, les objectifs sur le terrain sont d'essayer de déterminer quelles sont les zones de résistance aux ACT, donc à partir des essais cliniques, déterminer où il y a une véritable résistance clinique et à partir des échantillons de patients, déterminer s'il y a une résistance in vitro, mais également s'il y a les marqueurs moléculaires de résistance. Et ce, afin de déterminer s'il y a des relations entre les données cliniques, les valeurs donc de temps de clairance parasitaire, les données in vitro, avec le pourcentage de survie après 6 heures de traitement par DHA des isolats des patients, et les données moléculaires avec les mutations de K13. Ceci afin de détecter les parasites résistants, cartographier leur distribution, limiter bien sûr la propagation de cette résistance et adapter les schémas thérapeutiques. Différents travaux ont donc été publiés suite à la découverte de la mutation de K13. Un premier travail effectué par l'Institut Pasteur du Cambodge et le NIH montre que sur différents isolats du Cambodge, il y a une réelle corrélation entre temps de clairance parasitaire et polymorphisme de K13 avec systématiquement les isolats présentant un génotype sauvage qui ont un temps de clairance parasitaire beaucoup plus rapide que pour tous les isolats présentant un polymorphisme pour K13. De la même façon, on voit qu'il y a une corrélation entre le pourcentage de survie après un test par RSA et le polymorphisme de K13, puisque tous les parasites qui sont sauvages pour K13 ont un pourcentage de survie inférieur à 1, alors qu'il est supérieur à 3, voire 20, voire 80% en fonction de l'allèle muté de K13. Un autre article publié par Takal Harrison très récemment a essayé d'étudier la prévalence des parasites mutés pour K13 en fonction des pays. On voit qu'au niveau du Cambodge, à l'heure actuelle, plus de 80% des isolats sont résistants et donc sont mutés pour K13. Ces mutations sont rapportées dans 40% des isolats étudiés au Vietnam et au Myanmar. Pour le moment, il y a une forte majorité de souches sauvages pour K13 au Laos et au Bangladesh, même si deux nouvelles mutations sont apparues au Bangladesh pour le gène K13. Au niveau de l'Afrique, à l'heure actuelle, il n'y a pas de résistance clinique d'après le dernier rapport de l'OMS face aux ACT. Il y a quelques retards de clairance parasitaire de façon très sporadique qui, pour le moment, ne sont absolument pas associés avec aucune des mutations retrouvées en Asie du Sud-Est et associées aux résistances à l'artémisinine. Cependant, il y a de nombreuses mutations qui sont retrouvées pour K13 dans des isolats africains, même si pour le moment, ils ne sont absolument pas associés avec des résistances cliniques. Cela montre malgré tout qu'il y a un réservoir naturel important de variation du génome de Plasmodium et principalement au niveau du gène K13. À l'heure actuelle, la moitié de la population mondiale vit toujours à risque face au paludisme. Chaque minute, un enfant meurt toujours du paludisme. La résistance des parasites aux artémisinines est un réel danger. Si cette résistance n'est pas prise en compte avec la diligence requise afin de limiter la propagation de ces parasites, elle pourrait mettre en péril les progrès accomplis depuis 2000. Je souhaiterais enfin remercier les différents membres de l'équipe du LCC du CNRS, les collègues du CHU de Toulouse, de l'Institut Pasteur de Paris, de l'Institut Pasteur du Cambodge, de l'Université de Columbia et du NIH aux États-Unis. Je vous remercie pour votre attention.